Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Les 27 et 28 septembre prochains se tiennent à Toulon les rencontres stratégiques de la Méditerranée, une initiative de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques et la Fondation pour la recherche stratégique qui trouve toute sa pertinence dans le contexte actuel de guerre en Ukraine. Malgré leur éloignement des zones de conflit, les pays du Maghreb et du Moyen-Orient sont directement touchés par la guerre, tant en termes politiques qu'en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Regard avec nos invités depuis Toulon, l'amiral Pascal Hausseur, directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Bonjour.
Bonjour.
Également depuis Toulon, Pierre Razou, directeur académique de la FMES. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio à Paris, Agnès Levallois, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et vice-présidente de l'IREMO. Bonjour.
Bonjour.
Deux ans après la pandémie, le monde connaît un nouveau choc d'ampleur inédite. L'invasion de l'Ukraine représente un tournant stratégique majeur. Réveil brutal pour les Européens qui renouvellent la question de la défense du continent. L'agression russe a également de nombreuses conséquences dans d'autres régions. Le Sud ne fait pas exception. Le Proche et le Moyen-Orient sont eux aussi impactés, notamment le bassin méditerranéen. Ces journées d'études stratégiques, Pascal Hausseur, donc en Méditerranée, s'inscrivent dans un contexte de tension qui est venu s'ajouter à une région déjà structurellement sous tension, région qui, par ailleurs, on peut le rappeler, n'adhère globalement pas aux sanctions décidées à l'encontre de Moscou dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine. Les gouvernements ont exprimé des avis divergents sur le sujet. La Tunisie s'est alignée sur la diplomatie occidentale, mais le Maroc s'est absenté lors du vote aux Nations Unies sur la résolution condamnant la Russie, tandis que l'Algérie s'est abstenue. À quoi s'ajoute un sentiment anti-européen assez fort qui court le long de la rive sud de la Méditerranée. Il faut dire qu'il existe des relations économiques étroites entre le Maghreb, la Russie et l'Ukraine. Moyen-Orient et Afrique du Nord sont parmi les plus gros importateurs de produits alimentaires de Russie et d'Ukraine. Qu'est-ce que l'on peut dire, Pascal Hausseur, des développements qui ont cours aujourd'hui au Moyen et au Proche-Orient?
Je dirais que aujourd'hui, tout le monde est orienté vers l'Est, mais vous l'avez dit, le Sud mérite aussi qu'on le regarde et qu'on le regarde avec attention. Mmh. Avant même l'Ukraine, avant même le Covid, on avait déjà des tensions au sud de la Méditerranée, des tensions structurelles qui sont liées à la divergence entre les deux rives de la Méditerranée qu'on observe depuis 30 ans et qui va dans un sens qui est diamétralement opposé à celui qu'on attendait il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on s'attendait à une convergence progressive de la rive sud vers la rive nord, une forme d'européanisation de la rive sud. Ce n'est pas du tout ce qu'on observe. On observe au contraire une divergence qui crée des déséquilibres économiques, démographiques, culturels, en termes de développement, en termes de gouvernance politique. Ce déséquilibre crée des frustrations qui créent de la tension. Donc ça, c'est l'état, à la limite, c'est la situation de base, qui est déjà tendue et qui mériterait déjà en soi d'avoir des rencontres pour étudier comment mieux réguler ces tensions croissantes. Mais en plus, avec l'évolution stratégique qu'on observe dans le monde entier, une fragmentation des États, une rugosité des États dans les relations entre les États, l'emploi de la force de plus en plus désinhibé, eh bien on a des pays de la région qui s'émancipent de plus en plus des grandes puissances et qui défendent leurs intérêts avec pas mal de rugosité, avec finalement de façon très désinhibée. On a une implication de plus en plus forte des pays du Moyen-Orient en Méditerranée. On a la Turquie qui devient une puissance régionale de plus en plus présente et quelquefois antagoniste. Et puis on a, et c'est le dernier point, bien sûr, la rivalité des grandes puissances, celle qui évidemment s'exprime en Ukraine avec la Russie, qui est de plus en plus présente en Méditerranée, qui devient en quelque sorte un peu son front indirect face à l'Europe. Mais on a aussi la Chine, et ces rapports de force s'additionnent en quelque sorte pour faire monter la pression et les tensions. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé très important de prendre le temps d'étudier ces tensions, d'essayer de décrypter ce qui se passait, de voir vers quoi on va pour trouver des solutions et aborder avec un peu plus sereinement, intelligemment, un avenir qui est quand même très sombre.
On l'évoquera et on reviendra bien sûr sur la question de l'émancipation de certaines puissances. La Russie, dont on peut rappeler qu'elle s'était retirée de la Méditerranée avec la dissolution de l'URSS. Agnès Levallois, est-ce qu'on peut dire, Pascal Hausseur évoquait les divergences entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. Alors, on avait pensé à un rapprochement. Est-ce que finalement, les deux rives sont aujourd'hui plus séparées que jamais ?
En fait, je n'aborderai pas la question exactement sous cet angle-là. Ce que je dirais, c'est vrai qu'il y a moins de convergences que ce à quoi on s'attendait, mais ces convergences étaient beaucoup plus dictées finalement par le nord de la Méditerranée qui proposait des solutions ou qui proposait des démarches avec ces pays de la rive sud, mais de façon assez unilatérale et que toutes les propositions finalement de coopération étaient quand même souvent des propositions de coopération issues du nord et proposé au Sud, mais sans que le Sud n'ait véritablement son mot à dire. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est aussi à cette autonomisation de ces politiques de la part des pays du Sud, qui aujourd'hui envisagent, regardent, analysent leurs intérêts, et qui ne sont plus simplement dans un certain suivisme, ou dans tous les cas ne respectent plus de la même façon ce que proposait le Nord, parce qu'ils estiment, ces pays du Sud de la Méditerranée, qu'ils ont leurs intérêts, leurs propres intérêts, que ces intérêts ne vont pas forcément dans le sens de ceux des pays du Nord, des Européens et ou des Américains. Et il me semble que la crise ukrainienne démontre parfaitement cette évolution à laquelle nous assistons, avec des pays qui maintenant disent, effectivement, de façon beaucoup plus claire qu'auparavant, eh bien ça c'est dans notre intérêt, ou ça, ça n'est pas dans notre intérêt. Et si ça ne l'est pas, même si le Nord nous le demande, nous n'irons pas, parce que nous estimons que ce qui est important, c'est qu'on défende nos propres intérêts. Et c'est là où il y a une divergence effectivement qui apparaît, et je crois que ça va obliger aussi les pays européens essentiellement, parce que c'est une frontière avec nous, d'entendre cette évolution de la position des pays du Sud, qui ne va pas toujours dans le sens de ce que nous souhaiterions, mais nous sommes aussi dans une évolution de ces rapports de force, nous sommes dans une évolution de cette situation, et que nous devons absolument prendre en compte, sinon nous risquons d'aller vers plus d'affrontements, alors que ça n'est pas dans notre intérêt, et encore moins dans l'intérêt des pays du Sud, d'aller vers plus d'affrontements, comme on l'a vu autour de la Méditerranée orientale il y a un peu plus d'un an, avec une Turquie, on y reviendra probablement, qui s'affirme de plus en plus, et qui, elle, là encore, défend ses intérêts, qui joue sur tous les tableaux, puisqu'elle est proche de la Russie, elle est membre de l'OTAN, donc il y a une position qui est extrêmement compliquée. Mais plutôt que simplement dire la Turquie fait tout et n'importe quoi, je pense qu'il faut qu'on essaie de comprendre comment dialoguer, parce qu'on a besoin aussi de cette Turquie pour un rôle même régulateur. On l'a vu dans la crise en particulier des réfugiés syriens, où on demande à la Turquie d'être un peu le garde frontière de l'Europe. Donc toutes ces questions montrent qu'on se doit, je crois, d'être beaucoup plus dans un dialogue que dans une période au cours de laquelle c'était plus des impulsions qui venaient du Nord et les pays du Sud y répondant plus ou moins en fonction de leurs intérêts.
Alors, avant de parler de la Turquie, on y passera évidemment un temps certain. Pierre Razou, est-ce qu'on peut parler de faillite de la politique des pays du Nord vis-à-vis des pays de la rive sud de la Méditerranée ?
Alors, je ne sais pas si on peut parler de faillite de la rive nord. Moi, ce qui me frappe, c'est au-delà des images d'Épinal sur les vagues migratoires, l'insécurité, les questions alimentaires, c'est la fragmentation non seulement nord-sud du bassin méditerranéen, mais aussi sud-sud. C'est-à-dire on assiste à un retour réel de la conflictualité. On assiste à l'importation de toutes les rivalités et des problèmes, on va dire, du Moyen-Orient, la relation entre Iran, Arabie Saoudite, Iran, Émirats, Iran, Israël, Turquie, Qatar, etc. Tous ces problèmes-là se sont exportés sur la Méditerranée et ne font que rajouter de l'huile sur le feu. Et aujourd'hui, on a de véritables risques de conflits armés, de confrontations sur la rive sud, en Méditerranée orientale. Et c'est le but aussi de ces rencontres stratégiques de la Méditerranée, c'est de faire prendre conscience à toutes les personnes qui viendront y assister ou qui participeront au débat que la Méditerranée, c'est pas simplement les questions de rivalité ou les questions de migration. Que demain, il peut y avoir un conflit entre l'Algérie et le Maroc, il peut y avoir un conflit entre la Grèce et la Turquie ou Chypre, un conflit entre Israël, le Liban et l'Iran, un conflit directement avec les Russes qui, pour faire diversion de la guerre en Ukraine, attaquerait de manière aéro-maritime en Méditerranée et que donc le bassin méditerranéen peut redevenir un champ de bataille.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, Je vous propose, une fois qu'on a un peu mis ce panorama tout à fait intéressant pour éclairer les auditeurs, peut-être voir régionalement qu'est-ce que l'on peut dire de l'impact de la guerre en Ukraine. Vous évoquiez, Pascal Hausser, dans un article récemment, le durcissement, le raidissement des pouvoirs politiques dans la région, sans compter aussi l'impact sur les questions alimentaires, avec les exportations de blé et de maïs qui ont fortement décru, même si les ports ont pu rouvrir durant l'été. La situation, vous la qualifieriez comment, Pascal Hausser ?
On va vers un durcissement, il me semble. Déjà, une fois encore, ces sociétés sont très fragmentées. Il y a quand même une frustration, une déception des 30 années passées qui n'ont pas apporté la croissance et la hausse du niveau de vie qui a été attendue. C'est des populations qui sont quand même travaillées par des réseaux qui viennent souvent du Moyen-Orient, de l'islamisme radical, soit via le réseau des frères musulmans, soit le réseau des salafistes, qui sont eux-mêmes en confrontation les uns avec les autres. Et puis bien sûr, la crise économique, la crise du Covid et maintenant la crise alimentaire et énergétique liée à l'Ukraine rajoutent, et puis le réchauffement climatique, rajoutent encore des difficultés sociales extrêmement fortes dans une population qui est déjà extrêmement travaillée et frustrée et soumise à des tensions internes très fortes. Donc, assez naturellement, je dirais, les pouvoirs sentent ces tensions internes et ils sont tentés d'aller vers plus d'autoritarisme, vers un raidissement des règles. On le voit en Tunisie. On le voit également, on les a vus comme en Algérie, quand les mouvements sociaux commencent à venir, les mouvements de population, les mouvements internes, et ben le pouvoir se raidit. On peut les comprendre en quelque sorte, si je ne fais pas l'avocat du tout d'autoritarisme, mais quand on regarde les effets des révolutions ou des révolutions arabes de 2011 en Libye, en Syrie, en Égypte ou en Irak, ou les mouvements récents au Liban par exemple, on se rend compte que c'est assez compréhensible en tout cas pour les pouvoirs en place d'essayer de tenir leur population. Il y a un deuxième levier qu'ils peuvent utiliser, qui n'est pas non plus très, très positif, c'est le lever du nationalisme qui renforce les antagonismes qu'évoquait Pierre Razou tout à l'heure. Alors, on se rend bien compte que le levier du nationalisme est une façon de fédérer sa population derrière lui. Erdogan l'utilise régulièrement, l'Algérie l'utilise aussi de temps en temps. Et puis il y a le ressentiment anti-européen, qui est évidemment un autre levier potentiel, qui est activé et renforcé par l'action de la Russie dans la région, puisque l'arme de la guerre de l'information que mène la Russie, on l'a vu au Sahel, on le voit même dans l'Afrique subsaharienne, on la voit passant également au Maghreb et en Afrique du Nord. Donc tous ces leviers sont des moyens pour les pouvoirs en place de stabiliser en quelque sorte leur population et d'essayer de tenir malgré une pression sociale qui s'accroît et qui va aller s'accroissant avec l'impact de la crise économique et alimentaire et du réchauffement climatique qui est en train d'arriver et qui va se renforcer dans les mois et les années qui viennent.
Alors Agnès Levallois, le raidissement politique des régimes en place, il a surtout pour motif les printemps arabes initiés en 2011, que la situation après ça est venue accroître, comme l'évoquait Pascal Hausser, la pandémie, aujourd'hui la guerre en Ukraine. Et le sentiment anti-européen, c'est un sentiment anti-européen ou c'est un sentiment anti-français ?
Alors, il y a un sentiment anti-européen et dans certains pays pour lesquels la relation est particulière avec la France, il peut y avoir un sentiment anti-français. Donc, l'un n'exclut pas l'autre et tout va dépendre de l'histoire de chacun des pays dans lesquels ce sentiment va se développer. Et on voit bien qu'effectivement, il y a l'idée qu'on change d'époque. C'est-à-dire que je crois que ce que l'on voit aussi avec la crise en Ukraine, mais qui est un révélateur hein, de cette volonté des pays de la rive sud de s'autonomiser, comme on le disait tout à l'heure, et du coup de considérer que l'histoire, effectivement, bien sûr, elle est là, mais qu'il faut que les pays du Nord et que la France et que certains Européens n'aient plus toujours ce sentiment, finalement, de vouloir imposer ou de vouloir proposer un mode de relation qui ne correspond pas aux intérêts de... Alors, ça peut correspondre aux intérêts des régimes, mais il peut y avoir une réaction de la part des sociétés qui, elles, effectivement, sont travaillées, comme on le disait à l'instant, aussi par un sentiment national-nationaliste fort et qui est exploité par les régimes pour justement faire la part des choses et de montrer que les intérêts à défendre, ce sont les intérêts avant tout de chacun des pays pour bien montrer qu'il peut y avoir une évolution qui n'est pas forcément l'évolution à laquelle certains pays extérieurs se prêtent ou souhaitent pour les pays de la rive sud de la Méditerranée. Donc c'est vrai qu'on est dans une période extrêmement compliquée, puisque tous ces soulèvements de 2011 avec la réplique, si je puis dire, de 2019, a montré une aspiration de ces sociétés à mettre en cause les systèmes politiques autoritaires tels qu'ils avaient fonctionné en gros depuis les indépendances. Donc il y a une volonté d'exprimer autre chose avec ces sociétés qui se sont mises en mouvement, qui ont voulu faire entendre leur voix, avec une contre-révolution qui est arrivée quand même assez vite de la part de certains pays qui se sont érigés à la tête de ce mouvement de contre-révolution pour faire taire justement ces aspirations. Et aujourd'hui, on voit que certains régimes essayent d'utiliser ce sentiment nationaliste pour justifier finalement la reprise en main autoritaire de la part de ces régimes politiques contre les aspirations de ces sociétés. Finalement, l'objectif, au bout du compte, de ces régimes, c'est de reprendre complètement les choses en main et d'éteindre toutes les voies de contestation possibles qui sont là. Et au nom, justement, maintenant, là, il y a eu la pandémie qui a été un moment qui a permis le retour de cet autoritarisme et la guerre en Ukraine avec toutes les conséquences sociales que vous avez abordées tout à l'heure et toutes les crises que ça va impliquer, eh bien, c'est à nouveau un moment pour essayer, de la part de ces régimes autoritaires, de bien resserrer les boulons, si vous me passez cette expression, et pour dire aux sociétés, bon, là, maintenant, restez tranquilles et ce n'est pas le moment d'exprimer des revendications.
Pierre Azou, je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose à ce que vient de dire Agnès Levallois ou je vous pose...
Peut-être juste un point pour insister sur le fait que pendant des décennies, notamment la Rive Nord a misé soit sur le nationalisme contre l'islamisme ou sur l'islamisme contre le nationalisme en fonction de certains pays de la République, justement pour favoriser l'un ou contrer l'autre. Et ce à quoi on assiste, c'est qu'en fait, de plus en plus, on va avoir et le nationalisme et l'islamisme en même temps.
Agnès Levallois, vous êtes...
Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, ce sont des ressorts qui sont mobilisés suivant les situations de chaque pays et qui ne sont pas exclusives l'une l'autre, absolument.
Alors, on poursuivra dans la deuxième partie de l'émission la question de la Russie, de la Turquie. Peut-être avec vous, Pascal Hausser, on évoquait la crise alimentaire. C'est vrai que ce soit l'augmentation des prix des céréales, mais aussi l'augmentation des prix de l'énergie, tout ça risque de voir des problématiques sociales s'installer. Il y a tout de même dans tout cela certains pays qui vont tirer leur épingle du jeu, je pense, sur les questions énergétiques. C'est l'Algérie et la Libye qui sont producteurs de pétrole et de gaz.
Oui, ça me permet de revenir sur un point que Pierre Razou a évoqué. Il y a cette tension nord-sud dont on vient de reparler et qui est ensuite instrumentalisée soit par les pouvoirs, soit par les puissances anti-européennes. Mais il y a aussi beaucoup d'antagonisme sud-sud. Et cet antagonisme est aussi marqué au-delà du nationalisme, au-delà de la géopolitique classique pour s'approprier tel ou tel bout de terre, je pense au Sahara occidental entre le Maroc et l'Algérie. Il y a aussi des différences considérables en termes de revenus, en termes de facteurs de risque face aux problèmes d'alimentation, face aux problèmes des hydrocarbures entre les pays du Sud et évidemment la Libye. Et l'Algérie ne sont pas du tout dans la même situation que leurs voisins lorsqu'il s'agit de subir les conséquences de la hausse vertigineuse des hydrocarbures. Et ces tensions, ces différences entre les États risquent de donner des idées à ceux qui peuvent se sentir en situation de force pour accentuer leur pression sur leurs voisins ou partir dans des aventures militaires ou politiques un peu plus fortes. Paradoxalement, ça peut être un facteur de déstabilisation parce que ça va renforcer les différentiels, les déséquilibres et les tensions entre les voisins, les pays du Sud voisins. Et on voit bien, typiquement, le rapport de force Maroc-Algérie d'un côté, la situation de la Libye, le désir peut-être de s'approprier la ressource hydrocarbure en Libye sera encore plus forte qu'elle ne l'était avant la hausse des hydrocarbures, du prix des hydrocarbures. Et c'est, paradoxalement, ça peut être un facteur d'aggravation interne, de déstabilisation interne en Libye, avec des rivalités pour s'approprier cette manne, et des acteurs extérieurs qui voudront être du bon côté pour eux-mêmes avoir accès plus facilement à un pétrole ou un gaz un peu moins cher.
On poursuivra avec vous, Pascal Hausser, ainsi qu'avec Pierre Razou et Agnès Levallois, qui est avec moi en studio. On vous retrouve après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
comment la guerre en Ukraine change le pourtour méditerranéen. Et au-delà, nous retrouvons nos invités depuis Toulon par téléphone, l'amiral Pascal Hausseur. Également depuis Toulon, Pierre Razou, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Et Pascal Hausseur qui est directeur général de la FMES. Et en studio à Paris, Agnès Levallois, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et vice-présidente de l'IREMO. Nous avons évoqué dans la première partie de l'émission les tensions nord-sud entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. Et également, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est ces tensions qu'évoquait en fin de première partie Pascal Hausseur, les antagonismes qui émergent, des antagonismes sud-sud, Agnès Levallois, avec un accroissement des rapports de force et puis des interrogations sur la relation entre le Maroc et l'Algérie, sur la Libye, dont on disait qu'il était producteur de pétrole et de gaz et donc pouvait bénéficier des augmentations des tarifs énergétiques. Tout ça pouvant créer effectivement des tensions. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans ce schéma qui était décrit précédemment, Agnès Levallois ?
Ce qui m'inquiète, c'est le fait qu'il y a un risque, me semble-t-il, dans la situation actuelle de crise sociale, puisque ce sont des sociétés dans la rive sud de la Méditerranée qui connaissent des situations très différentes. Alors, il y a les pays du Golfe qui sont très riches et qui, eux, ne risquent pas grand-chose. Mais on sait que l'Égypte, qui importe beaucoup de céréales de Russie, mais surtout d'Ukraine, un pays comme le Liban, qui n'a plus de ressources aujourd'hui pour acheter de ces matières premières, ou des pays qui en sont aussi très dépendants, les pays d'Afrique du Nord. On voit bien qu'avec la crise ukrainienne et du coup l'augmentation des prix de ces matières premières, il y a vraiment une forte inquiétude parce que le système de subventions qui perdure depuis des décennies dans beaucoup de ces pays-là, ces subventions sont remises en question et donc rendent de plus en plus difficile l'achat de ces produits, le pain, la farine, pour les populations les plus défavorisées. On sait que le taux de pauvreté dans beaucoup de pays de la région est en train d'augmenter de façon absolument considérable. Donc, on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, parce qu'on est plus dans la question des rapports de force, des questions géopolitiques, géostratégiques, mais je crois que cette question sociale est une question extrêmement importante, d'autant qu'il y a eu une énorme frustration issue des mouvements de contestation de 2011 et 2019, qui n'ont pas pu apporter les réponses aux questions que les sociétés ont posées en descendant dans la rue et en obtenant le départ de certains des responsables de ces pays-là, mais remplacés par un système financier qui n'a pas beaucoup bougé. Donc il y a une frustration quand même extrêmement importante qui existe et avec effectivement ces distorsions importantes au sein même de la région sud-sud, telle que c'était évoqué tout à l'heure, entre des pays qui, eux, tirent remarquablement bien leur épingle du jeu puisque ce sont des pays exportateurs de pétrole. Et là, je pense, on a parlé de l'Algérie, de la Libye, mais je pense aux pays du Golfe qui, évidemment, bénéficient largement de cette crise ukrainienne parce qu'ils augmentent de façon considérable leurs ressources grâce au prix du pétrole et du gaz qui ne cesse d'augmenter. Et donc ça crée aussi des tensions avec aussi ces pays du Golfe qui sont de plus en plus présents sur la scène régionale et qui se sont de plus en plus intrusifs aussi dans la politique menée par certains pays, en soutenant certaines forces politiques et donc avec des moyens financiers considérables pour le faire.
Vous pensez aux pays du Golfe ?
Absolument. Qui financent et qui ont été vraiment à la tête, en particulier, de la contre-révolution menée dans la région et qui, du coup, si vous voulez, de par ce comportement et les moyens financiers dont ils disposent, en fait, sont intrusifs aussi dans certains pays qui, eux, sont beaucoup moins richement dotés. Et cela ne peut, à mon avis, qu'à terme aussi créer encore plus de tensions.
Alors, les pays du Golfe, puisqu'on les évoque là à l'instant, dont on remarque au bénéfice, ou en tout cas sous l'éclairage de la guerre en Ukraine, où on a vu les Américains essayer de négocier auprès des Saoudiens, entre autres, une augmentation de la production de pétrole de façon à faire baisser les prix. Pierre Razou, voilà, dans ce qu'on évoquait précédemment avec ces sentiments nationalistes qui prévalent de plus en plus dans la région, chacun cherchant à s'affirmer. Alors, c'est vrai pour les pays du Golfe, c'est vrai pour la Turquie, on l'a rapidement évoqué, on peut peut-être en parler maintenant, dont l'évolution est absolument spectaculaire. C'est vrai aussi peut-être pour l'Algérie. Et dans ces rapports de force que vous évoquiez, eh bien, ce que l'on voit aussi, c'est un renforcement des équipements militaires des pays. Pascal Hausseur évoquait la tension qui vient s'ajouter aux tensions. Enfin, on atteint là un degré supérieur. Pierre Razou.
Alors oui et non. Oui, par exemple, pour l'Algérie, parce que l'Algérie donc, a des rentrées de caisses très importantes avec le gaz et le pétrole, et donc est en train de terminer le paiement de tous les matériels, les armements russes qu'ils ont achetés ces dernières années. À l'inverse, paradoxalement, l'Égypte, qui elle est au contraire très à la peine, dépense en armement probablement plus que l'Algérie. Donc c'est un petit peu le contre-exemple. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez, qui est, je pense, crucial sur les monarchies du Golfe. On assiste, il me semble aujourd'hui, à trois mouvements qui s'interfèrent. Donc bien sûr, il y a le premier, c'est la place de la Russie, la perception de la Russie par les pays de la péninsule arabique et du Moyen-Orient, l'Iran compris, dans le cadre de la guerre en Ukraine. Le deuxième, c'est le repositionnement des Américains. Et donc, on voit bien que des pays comme, par exemple, l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis se posent de plus en plus de questions existentielles sur la sécurité, enfin sur la garantie de sécurité américaine. D'autant plus qu'ils voient l'administration de Biden se tourner de plus en plus vers le Qatar et, on va dire, chouchouter le Qatar, qui devient presque l'interlocuteur unique régional des États-Unis pour traiter un peu tous les problèmes de la région. Et le troisième dossier crucial, c'est la négociation finale sur l'accord nucléaire ou le retour éventuel dans l'accord nucléaire avec l'Iran. Parce que l'impression qu'on a, c'est que les monarchies du Golfe ont fait leur deuil de l'accord nucléaire et donc intègrent peu ou prou le fait qu'à un moment donné ou à un autre, l'Iran sera au seuil nucléaire et qu'il faut faire avec, et que donc, comme il faut faire avec, il faut bien entendu discuter avec l'Iran, comme il faut discuter avec la Turquie et les autres pays. Donc en fait, c'est un petit peu une sorte de grand retour de pragmatisme. Mmh. On revient un petit peu aux grilles de lecture d'il y a une quinzaine d'années, où on avait, c'est-à-dire avant l'arrivée de Mohamed Ben Salman en tant que prince héritier en Arabie Saoudite, et disons les pleins pouvoirs donnés à Mohamed Ben Zayed aux Émirats Arabes Unis, dans une situation un peu classique de jeux de pouvoir et de contre-pouvoir où les Émirats se méfient tout autant de l'Arabie Saoudite que de l'Iran et du Qatar, et où en fait chacun essaye de miser un peu sa partition pour répondre à ses intérêts nationaux, comme disait Pascal Hausser.
Alors, puisqu'on est sur l'Iran, on va y rester quelques instants. Ce que l'on voit, c'est donc l'Iran qui fait comprendre qu'il n'avait plus intérêt finalement à réintégrer le JCPOA, donc l'accord sur le nucléaire iranien qui était intervenu en 2015, dont les États-Unis se sont retirés. J'aimerais comprendre, alors peut-être avec vous à nouveau, Pierre Razou ou Agnès Levallois, on a vu des signes de raidissement iranien se multiplier finalement depuis le début du mois d'août. Alors, je ne sais pas si c'est le... Mais en tout cas, on le cite tout de même. Là, il y a eu la tentative d'assassinat de Salman Rushdie à New York et la découverte d'un projet d'assassinat contre John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, par un membre des gardiens de la Révolution. Et on voit finalement, après des années de déni, le pouvoir iranien avoir reconnu en juillet, par la voix d'un proche du guide suprême, que l'Iran était désormais capable de fabriquer une bombe nucléaire. Je ne sais pas, Agnès Levallois, si vous souhaitez apporter quelque chose ou si je me tourne vers Pierre Razou depuis Toulon, mais cette question du nucléaire iranien, la guerre en Ukraine, c'est une autoroute pour Téhéran.
Ce qui est vrai, alors je laisserai sûrement Pierre ajouter plus d'éléments que je n'en dispose, mais c'est vrai que la guerre en Ukraine, dans tous les cas, a détourné les regards de la négociation qui avait lieu. On a cru, l'hiver dernier, que l'accord était sur le point d'être signé, que tous les clignotants étaient au vert pour permettre la signature de cet accord, et que finalement, aujourd'hui, il n'en est pratiquement plus question. Et on se demande justement, avec les mois qui avancent, comment cet accord pourrait être signé, puisque pour les Américains, ça va être compliqué, pour Biden, même si celui-ci était très allant pour la signature de cet accord. Avec les élections mi-mandat qui approchent aux États-Unis, ça va être difficile pour lui de mettre en avant cet accord qui est quand même décrié par une grande partie des Américains, de la classe politique américaine. Et pour les Iraniens, finalement, plus le temps passe, moins il ne peut espérer d'en retirer des avantages, puisque si Biden n'était pas reconduit, en tout cas si les démocrates n'étaient pas reconduits, il y a des chances que les républicains reviennent aussi sur un accord si celui-ci était signé. Donc on voit bien que le timing, si je puis dire, est extrêmement difficile finalement pour permettre la signature d'un accord. Et le fait que les regards se soient complètement détournés de cette négociation au profit de la guerre en Ukraine, effectivement, a permis à ceux en Iran qui sont les plus opposés à la négociation, puisqu'on sait qu'il y a quand même des luttes de pouvoir aussi en Iran sur cette signature potentielle, possible, eh bien évidemment, ça a donné beaucoup de liberté ou de marge de manœuvre, en tous les cas, à ceux qui, en Iran, étaient les plus opposés à une possible, en tous les cas, signature de cet accord.
Et l'acceptation par les pays du Golfe, justement, de cet état de fait, Pierre Razou, c'est l'aboutissement, enfin en tout cas c'est une nouveauté.
Oui, et puis je voudrais, pour rebondir sur ce que disait Agnès et ce qu'on disait tout à l'heure, en fait le dossier iranien, à mon avis, il est mort pour des raisons de politique intérieure à la fois en Iran et aux États-Unis. Et en fait, le camp des faucons et des radicaux ou des durs et à Washington et à Téhéran, quelque part, ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de retour à l'accord nucléaire pour des raisons différentes. Donc, le but du jeu, c'est de créer un narratif qui fera en sorte que tout le monde comprenne rapidement que c'est mort et qu'il faut trouver finalement quelqu'un à qui faire porter le chapeau. Et ce que je constate, c'est qu'en ce moment, des deux côtés, surtout du côté iranien, c'est les Européens qui sont chargés, les négociateurs européens à qui on dit vous allez être trop loin, vraiment, vous n'êtes pas souple. Donc quelque part, si les États-Unis et l'Iran peuvent s'entendre pour faire porter le chapeau de l'échec aux Européens, ils seront ravis. Et là, on reboucle sur ce que disait Pascal Hausser au début de notre émission.
Alors, on va, avec vous, Pascal Hausser, parler de la Turquie et de la Russie. Alors, on évoque beaucoup la remilitarisation de la Méditerranée orientale, qui est l'antichambre de la mer Noire, où les choses se passent en ce moment avec la guerre en Ukraine. Il y a renforcement de la présence russe dans la zone depuis le déclenchement de la guerre. La présence russe qui n'est plus seulement cantonnée aux alentours de Tartous, en Syrie. Et on voit aussi les Américains avoir repositionné en Méditerranée un certain nombre de navires qui étaient initialement dans l'Atlantique. La question qui se pose, alors, parmi les pays qui bénéficient de la situation en Ukraine, il y a la Turquie, la Russie. Est-ce que les Turcs, d'après vous, vont continuer de tenir les détroits comme ils le font depuis le début de la guerre et qui permet peut-être d'éviter un embrasement ?
Il me semble que c'est tout à fait dans leur intérêt. Erdogan joue, comme il le fait depuis maintenant plus de 10 ans, parfaitement bien sa carte, en essayant d'optimiser son jeu à travers un grand écart qui au début semble toujours impossible à tenir et qu'en fait il arrive à très bien tenir, entre la Russie d'un côté, entre les États-Unis de l'autre, tout en essayant d'exploiter toutes les marges de manœuvre que les évolutions géopolitiques, économiques, militaires, sécuritaires lui offrent au fil des ans. Moi, je pense qu'il n'y a aucune raison que Erdogan change sa posture, et que la Turquie en général, parce qu'il n'y a pas simplement la personnalité d'Erdogan, je pense qu'il y a un vrai consensus en Turquie pour valider la posture qui a été prise, qui est assez bonne, le maître des détroits, indispensable aux Européens et aux États-Unis pour essayer de contenir les Américains, les Russes, pardon, indispensable aux Russes pour éviter que l'OTAN ne rentre dans la mer Noire et change l'équilibre militaire, qui est évidemment extrêmement important militairement parlant pour la Russie dans ses opérations en Ukraine. Tout en ne pratiquant pas les sanctions économiques, et donc ça permet à la Turquie d'avoir une très bonne année sur le plan économique avec énormément de Russes, soit d'oligarques, soit de sociétés russes qui vont s'installer en Turquie pour pouvoir se trouver un peu entre les deux et continuer à faire du business avec l'Occident sans sanctions. Enfin bref, à la fois sur le plan économique, à la fois sur le plan militaire, sur le plan politique, la posture de la Turquie, elle est excellente. Il n'y a aucune raison qu'il change de politique. En revanche, c'est jamais complètement gagné. C'est une posture très complexe qui demande beaucoup de subtilité. Par exemple, c'est clair que pour la Turquie, il y a une vraie priorité en Syrie avec les Kurdes, et Erdogan souhaitait pouvoir refaire une opération militaire pour sanctuariser sa zone tampon au nord de la Syrie d'une trentaine de kilomètres. Et pour l'instant, il n'a pas eu le feu vert des Russes et il ne le fera pas, sauf si il a une opportunité qui s'ouvre parce que les Russes, en très mauvaise posture, pourraient pourrait ne pas être en possibilité de l'empêcher. Donc c'est à chaque fois une partie de poker extrêmement fine, extrêmement subtile. Mais ce qui me frappe, je voudrais finir là-dessus parce que ça me permet de rebondir sur une idée qui a été donnée précédemment. Ce qui me frappe, c'est que ce sont les Européens qui sont absents de tout ce jeu. Les Américains jouent, les Russes jouent, les Turcs jouent. On a parlé des pays, des monarchies du Golfe qui jouent. Et le mot jouer est évidemment pas très adapté. En fait, qui poussent leurs pions, qui ont une véritable stratégie, qui est notamment dans une guerre de l'information extrêmement développée dans tout le bassin méditerranéen, d'ailleurs, nord et sud, avec des moyens financiers considérables, avec des objectifs très précis. Et finalement, la cible, l'intersection de tous ces objectifs est située en Europe, pour la plupart des cas, qui est à la fois la cible d'une partie de cette guerre d'information et en même temps est souvent placée un peu comme le bouc émissaire de toutes les difficultés que chacun a, où qu'il soit. Et je pense que c'est assez délétère parce qu'à la longue, on ne peut pas être complètement ignorer complètement cette guerre en disant mais tout ça, ce sont des mensonges, c'était tellement évident que tout ça est de la propagande de bas de gamme. En fait, il me semble que ces propagandes sont très efficaces, qu'elles finissent par fragiliser la position des Européens dans tout ce jeu et qui ont des marges de manœuvre de plus en plus limitées. Et ça accentue un ressentiment très partagé par des gens qui eux-mêmes n'ont rien à voir entre eux, mais qui ont partagé au moins un objectif, c'est ces Européens sont coupables de beaucoup de choses et il faut les faire payer.
Agnès Levallois.
Alors, sur la Turquie, je voulais ajouter un élément qui me paraît intéressant. Effectivement, l'objectif d'Erdogan, c'est de mener une opération militaire pour laquelle il n'a pas encore obtenu le feu vert des Russes et des Iraniens. Mais il me semble que la Turquie, Erdogan étant lancé maintenant dans un processus de normalisation avec le régime Assad, contre lequel il avait vraiment pris des positions très très dures, en fait, est un moyen de ne pas lancer cette opération militaire, parce que s'il obtient un accord avec Assad, il peut y avoir un accord finalement selon lequel c'est le régime, l'armée syrienne, qui contrôle les Kurdes, limitant finalement la possibilité ou l'intérêt de mener une opération militaire. Et donc je pense que cette ouverture depuis quelques semaines d'Erdogan à l'égard du régime syrien est à mettre en relation avec justement cette stratégie de protéger la frontière avec la Syrie pour empêcher que la Syrie ne serve de base arrière aux Kurdes et surtout de régler la question des réfugiés syriens en Turquie, puisqu'on sait qu'il y a un ressentiment de plus en plus fort de la part de la population turque à l'égard de ces 3,5 millions à 4 millions de réfugiés syriens et que donc Erdogan veut les renvoyer dans cette fameuse zone de sécurité au nord de la Syrie. Et donc là encore, on voit un Erdogan qui joue très très bien, entre guillemets bien évidemment, de ses intérêts, de la position des uns et des autres pour avancer dans la direction qui l'intéresse lui. Tout ça avec un objectif qui est essentiel pour lui aujourd'hui, c'est préparer sa réélection en 2024, puisqu'avec la crise économique que connaît la Turquie, même si ça va un peu mieux aujourd'hui, eh bien, il y a eu une désaffection de la part des Turcs à l'égard de la politique qui mène et qui a été un succès jusque-là. Donc c'est un élément important, je crois, aussi de la stratégie de la Turquie dans ce jeu moyen-oriental que l'on observe maintenant depuis plusieurs mois.
Et alors, ce sentiment anti-européen que nous avons évoqué, il est évident que la Russie, c'est parfaitement l'alimenter dans la région. Alors, on avait parlé de développer beaucoup sur la Russie. Malheureusement, on n'en a pas tellement le temps. En tout cas, on a compris aussi, à travers ce que vous avez dit, Pascal Hausser, que vous invitiez finalement l'Europe à une rupture de sa posture stratégique, à ce réveil finalement des défis géopolitiques méditerranéens. Pierre Razou, je me tourne vers vous pour vous laisser la conclusion de cette émission en 30 secondes.
Bon, ben juste pour peut-être attirer l'intérêt de vos auditeurs donc sur ces rencontres stratégiques de la Méditerranée qui ont justement donc 9 séries de tables rondes qui aborderont un petit peu toutes ces thématiques et qui permettront de croiser les regards non seulement de géopoliticiens un petit peu comme nous ou d'experts des relations internationales mais aussi de militaires, d'opérationnels, de spécialistes de la haute technologie pour tous ensemble discuter de vers quoi on voit, quels sont les défis, les enjeux et quelles conséquences pour la France et l'Europe.
Merci Pierre Razou. Je rappelle que vous êtes directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Vous étiez avec nous au téléphone depuis Toulon, ainsi que Pascal Hausser, amiral et directeur général de la FMES, et en studio à Paris avec moi Agnès Levallois, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et vice-présidente de l'IREMO. Je signale également la possibilité de télécharger un atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient Orient, qui est un document vraiment très intéressant, donc sur le site de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, un téléchargement gratuit. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Samedi prochain, nous serons non pas à Toulon, mais à Nantes pour les Géopolitiques de Nantes. Nous parlerons de la Russie et du Brésil. À très bientôt.